Et donc au menu de notre club cet après-midi, un homme qui a arrêté de se doucher pendant plus d'un mois, un marché aux poissons mythique et quelques raisons de ne pas aller chez le psy. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, les bourdons qui ont certes un petit cerveau mais qui peuvent se montrer très créatifs.
Oui, et les recherches dans le domaine de l'intelligence animale qui avancent très vite. Une équipe d'anglais vient d'arriver à apprendre à des bourdons à jouer au golf pour se nourrir. Une étude rigolote et très intéressante également. On en parle avec l'éthologue Mathieu Lioro.
Stéphanie Texier est aux commandes de ce club qui a été préparé aujourd'hui par Chantal Le Montagnier avec Pierre De Certaine.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue mes invités, le journaliste Guillaume D'Alessandro, le psychiatre David Gorion et le géographe Gilles Fumet. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue. Guillaume D'Alessandro, c'est donc vous, l'homme qui a eu la drôle d'idée de ne plus se doucher pendant plus d'un mois. Alors il faut dire que c'est une expérience que vous avez menée pour le magazine Oui Demain. Mais qu'est-ce que vous avez cherché à savoir exactement ?
Ah, je sens toute l'angoisse qu'il y a dans ce studio, la puanteur qui devrait se dégager normalement de mon organisme et l'angoisse de passer une heure avec quelqu'un terriblement agressif d'un point de vue olfactif. Mm-hmm. La réalité, c'est que j'ai voulu explorer ce que l'on appelle le microbiome de la peau, c'est-à-dire tous ces milliards de bactéries qui sont sur notre peau et qui nous maintiennent en bonne santé.
Bon, eh bien, on va raconter ce mois, un peu plus d'un mois d'ailleurs d'expérience et heureusement, depuis, vous avez quand même repris quelques douches. Gilles Fumet, on va monter d'un cran dans les odeurs avec vous, avec le marché aux poissons de Tokyo, qui est le plus grand du monde. Ce marché qui devrait d'ailleurs être détruit, là, peut-être dans les mois, dans les années qui viennent. Qu'est-ce qu'il raconte, ce marché, aux géographes, exactement ?
Il raconte que le Japon, en fait, s'est passionné pour le poisson, non seulement parce qu'il est au bord de l'océan, mais surtout parce que les dirigeants politiques et la municipalité de Tokyo, on va dire à l'époque, les responsables de la ville ont organisé ce marché, voilà, ont organisé une place sur laquelle ils vont à la fois donc drainer ces poissons et puis surtout donc les distribuer pour en faire un vrai point fort de leur gastronomie. Et la raison pour laquelle justement cette cuisine japonaise s'est développée dans le monde, c'est précisément parce que on avait expérimenté sur le marché de Tokyo cette chair fraîche qui a été appréciée dans le monde.
Avec ce lieu qui fait 25 hectares, hein, et on va le décrire avec vous dans quelques instants. David Gourion, vous publiez avec le dessinateur Museau 50 puissantes raisons de ne pas aller chez le psy, c'est chez Jean-Claude Lattès. Alors en tant que psychiatre, vous avez décidé quoi ? De vous tirer une balle dans le pied ou au contraire de réhabiliter l'image du psy ?
Non, en fait, c'est drôle que vous me le posiez comme ça, parce qu'un patient me disait « mais ça va être terrible pour vous, vous n'aurez plus de patients avec ce livre
oui. ».
Non, l'idée était, beaucoup de gens en fait sont très inquiets à l'idée d'aller voir un psy, et pourtant en ont besoin. Et on s'est beaucoup amusé avec le dessinateur Museau à justement essayer de prendre ces clichés à contre-pied.
Absolument.
De façon à les contourner, à rassurer les gens qui auraient besoin.
Et vous nous avez beaucoup amusé également, on va se retrouver dans un instant donc pour en discuter et pour évoquer l'ensemble de ces sujets avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Et aujourd'hui, à la une de la science, encore une très belle preuve de l'intelligence des insectes avec des bourdons qui jouent au golf.
Mais l'Écossais s'accroche et sur le dernier trou du parcours réussit un coup parfait. Là encore, anxiété. Fantastique sortie de bunker. Sa balle tombe sur la bonne pente du green et roule vers le drapeau.
Voilà, et c'est à peu près ce que sont capables de faire ces bourdons avec des chercheurs anglais qui montrent justement que ces insectes sont capables d'apprendre et de transmettre très rapidement de nouvelles techniques de nourrissage, même s'il s'agit justement de jouer au golf. C'est une publication très sérieuse dans la revue Science que nous commentons avec vous, Mathieu Lioro. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche CNRS au Centre de Recherche sur la Cognition Animale, c'est à Toulouse. Alors, vous travaillez vous-même sur le comportement des bourdons. Comment est-ce que vous avez réagi en voyant les images, parce qu'on peut les voir, hein. Il y a une petite vidéo très sympa qui a été tournée de la part des chercheurs, et les conclusions de ces travaux.
Ah, c'est ça. Donc, je connais très bien les chercheurs en question. Ce sont des images qu'ils montrent maintenant depuis 6 mois. Et au début, ça fait rigoler, mais c'est très très sérieux. Mmh. Et en fait, ce qu'il montre dans cette étude, c'est que un insecte, le bourdon, est capable d'innovation. Donc il est capable d'apprendre une tâche qu'il ne voit jamais dans la nature, qu'il ne rencontre jamais dans la voiture. Et il est capable d'améliorer cette tâche par essai, erreur et par observation.
Comme jouer au golf par exemple alors, c'est ça ?
Comme jouer au golf ou jouer au foot, ça dépend des, des sensibilités.
Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'est déroulé l'apprentissage et un petit peu l'expérience qu'ont mené ces Anglais ?
Alors, c'est très simple. Dans un premier temps, ces Anglais ont développé des petites baguettes avec au bout attaché un leurre de bourdon, donc un bourdon en résine. Et ils ont poussé avec ce bourdon en résine une balle vers un trou. Et donc, il y avait des bourdons naïfs qui pouvaient observer ce comportement. Et après à peu près 5 jours d'entraînement, le bourdon qui observait cette baguette en train de pousser la balle, bah, s'est mis à pousser la balle ou à tirer la balle en fonction des bourdons.
Quelle était la motivation qui l'amenait à faire cette tâche ? Il y avait une récompense quand même.
Dans le trou, justement, il y avait quelque chose ?
Oui, pardon, dans le trou. Alors, lorsque la balle atteignait le trou, le bourdon pouvait accéder à de l'eau sucrée. Donc, une récompense. Voilà.
Est-ce qu'on peut imaginer que cet apprentissage soit transmis de la même manière de bourdon à bourdon ?
Donc c'est exactement ça, c'est la deuxième étape de l'étude. Donc une fois qu'on a des bourdons qui poussent la balle dans un trou, on peut placer des bourdons naïfs qui observent les bourdons plus expérimentés. Et donc dans cette étude, l'équipe de chercheurs anglais là, a montré que par simple observation, il suffit d'une ou deux observations, un bourdon naïf va se mettre à pousser la balle, comme le bourdon expérimenté, au centre de la plateforme, pour obtenir la récompense sucrée.
Une ou deux fois, donc ça suffit pour répéter le même geste.
Oui, c'est ça, ça va extrêmement rapidement. Donc ici, on est sur des comportements qui sont analogues à un comportement de butinage. Mm-hmm. Bien sûr, là, on est dans une situation extrêmement artificielle, mais dans la nature, il faut savoir que ce type d'apprentissage, potentiellement, se passe sur une fleur et que le bourdon n'a pas le choix. Il faut qu'il aille butiner et qu'il rentre à la ruche. Sinon, il rentre jamais, quoi, s'il apprend pas aussi rapidement.
On a des exemples dans la nature d'innovations comme ça qui apparaissent dans des colonies d'insectes et qui se transmettent ?
Alors oui, ça a été décrit il y a très longtemps par Darwin, qui faisait beaucoup d'observations dans son jardin. Et ce qu'il a observé un jour, c'est que certains bourdons ne se posaient plus sur les fleurs pour récupérer du nectar et butiner normalement, mais avaient tendance à couper les tiges. Et en coupant la tige des fleurs, eh bien, ils avaient accès très certainement à la sève directement et donc à une concentration d'eau sucrée beaucoup plus importante. Et donc ce qui a été démontré par la suite, c'est que ce type de comportement, couper les tiges des fleurs, ne pas butiner de manière conventionnelle, peut se transmettre par observation dans des populations de bourdons.
Et quand un bourdon commence à faire ça, toute la colonie se met à couper les fleurs plutôt que de butiner, c'est ça aussi ?
C'est exactement ça.
Ouais.
Donc ça veut dire que c'est une transmission qui ne se fait pas de génération en génération, mais dans des individus qui ont le même âge de la même génération.
Alors voilà, ce genre d'étude est réalisé souvent au niveau d'une colonie. Donc on parle de tous les bourdons sont sœurs, ont toutes la même génération. Mais on peut imaginer que dans la nature, il y ait des bourdons de différentes colonies qui interagissent. Et donc il peut y avoir cette transmission culturelle de colonie en colonie et peut-être sur plusieurs générations.
Ah oui, donc on appelle ça de la culture carrément. On emploie le mot pour ces insectes.
Alors on commence à peine. Donc pour les bourdons, il y a des comportements similaires qui ont été découverts il y a 2-3 ans sur la drosophile également.
Mmh. Alors moi ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'étude, c'est que le bourdon ne fait pas que appliquer bêtement ce qu'il a vu. Il est capable d'adapter son apprentissage à différents types de situations. Vous pouvez nous raconter un tout petit peu ?
Voilà, non, c'est ça la grosse découverte de l'étude. C'est que dans la dernière étape, les auteurs ont proposé une tâche un peu plus complexe à résoudre. C'est-à-dire qu'ils ont placé 3 balles dans le dispositif expérimental et le bourdon démonstrateur avait appris à toujours pousser la balle qui était la plus loin du trou vers le trou. Mmh. D'accord ? Donc le bourdon naïf observait ce comportement et lorsque le bourdon naïf était testé, il avait tendance à pousser la balle qui était la plus proche du trou.
Ah, il était plus malin que le démonstrateur, alors justement.
Exactement. Ouais. Et donc, il a appris quelque chose, il a analysé et il a amélioré son comportement.
Incroyable. En termes de cognition animale, qu'est-ce que ça nous apprend vraiment, toutes ces expériences ?
Alors, ça nous en apprend un paquet sur les invertébrés qui, jusqu'à présent, étaient considérés comme ayant un petit cerveau et donc de faibles capacités cognitives. Donc, la multiplication de tous ces travaux sur l'apprentissage social, l'innovation, on parle même d'émotion à l'heure actuelle chez les insectes, eh bien ça démontre bien que qu'il faut arrêter avec ces idées, parce qu'on a un petit cerveau, qu'on a des capacités cognitives forcément limitées. Et voilà, il se passe beaucoup plus de choses sous cet exosquelette que ce que l'on pense.
Et justement, Mathieu Liraud, on voit en ce moment une tendance très très forte autour de la cognition animale et de l'intelligence plus largement d'un certain nombre d'espèces. Il y a énormément de recherches qui sont réalisées aujourd'hui et on se rend compte que plus on cherche et plus on trouve au fond des signes d'intelligence aussi et de capacité chez les animaux en général.
Exactement, donc ça c'est lié à l'émergence d'une nouvelle science, enfin une nouvelle science qui a maintenant à peu près une vingtaine d'années, c'est la cognition comparée. Mmh. Donc c'est l'idée de comparer les capacités cognitives des animaux à travers tout le règne animal. L'idée qui est sous-jacente à ça, c'est que la cognition, l'intelligence, c'est un trait qui a été sélectionné pour survivre dans la nature. Et ça c'est une idée qui est finalement assez récente. Mmh. Mais quand on a cette idée en tête et qu'on le cherche, Les traces de cognition chez les animaux, on les trouve.
Voilà, c'est ça. On voit que c'est partagé par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces. Et donc, très récemment, encore cette semaine, dans Science, cette étude. En ce qui concerne vos amis, les bourdons, Mathieu Liraud, merci beaucoup en tout cas pour vos explications passionnantes sur ces animaux. Et Axel, on se retrouve lundi.
Et bon week-end à tous.
Bon week-end. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un jeu vidéo développé avec l'Agence spatiale européenne. Il est produit par un studio canadien. Il s'appelle Mass Effect Andromeda. Et il met en scène une arche de Noé humaine en route pour un long voyage spatial. Trop futuriste pour être réaliste, eh bien à vous de juger, parce que ce jeu se veut scientifiquement crédible et pour cela l'Agence spatiale européenne a ouvert les portes de certains de ses simulateurs et de ses bâtiments aux créateurs du jeu et leur a prodigué quelques conseils concernant l'univers justement du jeu. Par ailleurs, le créateur de l'exoconférence Alexandre Astier prêtera sa voix à l'un des personnages. Un fossile vivant dénommé Tuatara, dans une étude publiée par la revue Paléontologie, des scientifiques britanniques montrent que cette sorte de gros lézard, vivant uniquement en Nouvelle-Zélande, mérite vraiment ce qualificatif de fossile vivant, inventé par Charles Darwin, mais plutôt appelé espèce panchronique aujourd'hui. Ce terme décrit des espèces justement ayant une évolution très lente et dont l'aspect physique ne change pas au fil de l'évolution. En étudiant les fossiles de ses proches cousins aujourd'hui éteints, les chercheurs assurent que le Tuatara n'a que très marginalement évolué depuis 240 millions d'années, méritant donc ainsi la dénomination de fossile vivant. Et puis le virus de l'herpès est-il un déclencheur pour l'autisme? C'est ce que soupçonnent des chercheurs norvégiens dans une étude menée sur près de 900 femmes. Ils ont constaté que la proportion d'enfants atteints d'autisme doublait lorsqu'au début de sa grossesse, la mère était atteinte du HSV2, un des deux types de virus de l'herpès. Selon les scientifiques, certaines femmes ont une prédisposition génétique qui intensifie leur réaction immunitaire face au virus, pouvant justement endommager le cerveau du fœtus. Et c'est le club dans un instant. On losing you over complications, gone too soon. Wait, we was just hanging. I can't seem to hold on to. Dang, the people that know me best, the key that I won't forget. Too soon, I can't keep on losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. They might take it to an Ivy League school. Won't get Hall of Fame from minor league dude. I'd see peace if other people need food. Only got a little time and I ain't trying to spend it. All you in about who ain't giving who attention. Starting up the engine, need to reboot. I'd see peace if other people need food. It's complicated keeping me up late. Can't concentrate, you're always on my brain. If it's love, then why the fuck become with pain? I just think that's some bullshit. Okay, I seem inviting. Trust me, she's a titan. This week she like them, next week they fighting. Need protection, all your dress is bulletproof. You safe with me, girl. I can't keep on losing you. Where the hell you going? Where you taking this trip to? Wait, don't move, don't say to. I can't keep on losing you. Where the hell you going? Wait, where the hell you going? I can't keep on losing you over complications. Gone too soon. Wait, we was just hanging. I can't seem to hold on to. Dang, the people that know me best, the key that I won't forget. Too soon, I can't keep on losing.
Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you.
Mac Miller avec Dang à l'instant sur France Inter dans notre club de la tête au carré avec aujourd'hui donc avec les sujets que nous allons évoquer, un marché aux poissons mythique à Tokyo, un homme donc qui a arrêté de se doucher et de bonnes raisons pour ne pas aller chez le psy avec vos messages et vos questions franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. On va donc commencer avec vous Guillaume D'Alessandro, vous êtes journaliste, vous êtes resté donc un peu plus d'un mois sans prendre de douche pour le nouveau numéro du magazine Oui Demain qui vient de paraître et pour illustrer justement votre sujet, voici une archive avec Serge Gainsbourg.
Ça c'est salle de bain, mais j'y rentre jamais. Moi je me lave avec ça. Avant je me lavais les deux mains, avec les deux mains. Puis après je me suis lavé avec une main. Et maintenant j'ai trouvé quelque chose de mieux. Ah, ma toile était faite. C'est pas des blagues en fait, c'est vrai. Je fais quelques raccords, évidemment, de temps en temps.
Voilà, c'était en 1973. C'est rapide, hein, la toilette chez Gainsbourg. Juste un petit brumisateur, et puis voilà, on est prêt. C'est à peu près ce que vous avez vécu, finalement, Guillaume D'Alessandro, pendant plus d'un mois.
Ah, ça n'a même pas été le brumisateur. Ça a été un régime sec, si je peux dire. J'ai vraiment décroché.
Donc, c'était cette expérience que vous avez menée pour Oui Demain. Et l'histoire, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'était d'abord d'étudier la peau, de rentrer quasiment dans les pores de la peau pour voir comment tout ça réagissait.
Eh bien, il faut savoir que la peau humaine, en fait, est un film. C'est un film d'huile. Nous sommes couverts d'une sorte d'huile dans laquelle des centaines de milliards de bactéries prolifèrent. Lorsque l'on se lave, on utilise un détergent qui va donc enlever toute cette huile et les bactéries vont devoir recoloniser ce territoire immense pour elles qui sont notre peau. Et naturellement, vous avez les bonnes bactéries qui vont lutter contre les mauvaises bactéries. Quand les mauvaises bactéries prennent le dessus, ce sont les mauvaises odeurs, les odeurs de sudation, les odeurs de vestiaire de football. Et ça nous rend, désagréables et socialement dangereux. L'idée de ne pas se laver, ça consiste à voir si on peut rétablir cet équilibre bactérien sur la peau pour en arriver à une neutralité, c'est-à-dire à notre odeur naturelle.
Ouais, donc il fallait passer un premier cap quand même, celui que vous décrivez un peu d'odeur d'odeur de vestiaire quand même au départ.
Ah, la première semaine est véritablement terrible. Ouais. Et c'est l'inconfort le plus absolu, on se retourne dans les transports en commun, on regarde, on voit des regards de gens offusqués de voir une personne à priori bien vêtue, mais dégageant des miasmes véritablement turpides. Et au bout d'un moment, au bout d'une dizaine de jours, finalement, les choses se rééquilibrent et on rentre dans la neutralité, c'est-à-dire que l'on a un véritable parfum, sa propre signature olfactive, sa vraie odeur personnelle.
Voilà. Il faut juste passer ce premier cap, qui est quand même pas le plus évident. Gilles Fumet, ça vous intéresserait de mener cette expérience? Vous qui avez vécu dans le marché aux poissons de Tokyo, quand même, maintenant, vous êtes blindé, quand même, non?
Il est, justement, ce marché, il est très désinfecté. Et on ne...
Il n'y a quasiment pas d'odeur
Pas tellement. Il y a beaucoup d'aération. Et c'est vrai que je pense que pour attirer les touristes, on désinfecte, on nettoie. Ouais. Et puis au Japon, on est comme en Suisse, hein, où on a une approche de la propreté qui est maniaque à un point.
Ouais. Donc on aurait plus d'odeur avec Guillaume D'Alessandro dans tout le bus, fait. Par exemple. Ouais. Mais alors vraiment, les gens se retournaient autour de vous quand vous étiez assis dans les transports en commun?
C'est une pure stigmatisation sociale. On a aujourd'hui, dans notre société, une intolérance absolue aux odeurs. Que ce soit des odeurs dites mauvaises ou néfastes, ou que ce soit des odeurs, des parfums portés de manière trop forte. Mmh. On est rentré dans un monde qui est devenu, pour le coup, véritablement aseptique. Ouais. Moi, je prends souvent cet exemple. Ma grand-mère est née en 1917. C'était une très belle jeune femme. En 1937, elle avait 20 ans. Est-ce qu'on peut imaginer, et j'en appelle au souvenir des auditeurs, qu'une femme, en 1937, prenait une douche tous les jours? Bien sûr que non. Les gens se nettoyaient, se lavaient les mains, se lavaient le visage, mais n'avaient pas cette espèce de toilette intégrale qui est aujourd'hui devenue une injonction sociale. Ouais. Et pour autant, ces gens-là étaient des gens parfaitement insérés. Imaginez-vous le général de Gaulle prendre une douche tous les jours?
Ah oui, c'était pas le cas. Non.
Bien sûr que non. Les gens se lavaient les mains, se débarbouillaient le visage, éventuellement se lavaient les pieds, mais n'avaient pas cette obsession de l'hygiène, cette obsession du récurage corporel tel qu'on peut l'avoir avec toutes les injonctions de la publicité et de l'énorme industrie, des cosmétiques.
Ouais. Alors, faut dire que vous avez connu l'excès inverse quasiment. Vous racontez que étudiant, c'est ça, vous avez travaillé pour les cosmétiques et pour des parfums et en particulier pour Opium, c'est ça?
À l'âge de 18 ans, je fabriquais une tonne d'opium par mois. moi.
Ah oui.
C'était dans une usine de, d'Argenteuil qui fabriquait des concentrés de parfum.
Oui.
Un parfum, c'est...
Le parfum, oui, bien
voilà,
sûr.
Ouais. C'est 90% d'alcool et c'est 10% de principes aromatiques, si vous voulez. Et donc, j'étais au contact avec tous ces concentrés de parfums très, très, très puissants. Oui. Et ça m'a valu un ostracisme social parce qu'il m'a fallu 3-4 mois pour que toutes ces odeurs profondément imprégnées dans la peau, dans les cheveux et dans tout mon système pileux, se dégage. Les parfums ne sont solubles que dans l'alcool, donc naturellement la douche, l'eau ne servait pas à enlever ces parfums. Et là, je vous assure, les célibataires ne trouvent pas compagne. Qui irait prendre un rendez-vous à un café avec quelqu'un qui pue la cocotte à 2 mètres? Et ça se traduisait par vraiment une isolation, une stigmatisation sociale très forte à cause de cette puissance olfactive dont j'étais victime en travaillant dans cette usine de parfum.
Voilà, donc vous avez fait quasiment l'expérience en sens inverse là pour Oui Demain. Alors, ça s'améliore au bout de 8 jours, vraiment?
Au bout de 8 jours...
Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous un peu, oui, toutes ces bactéries, qu'est-ce qu'elles deviennent?
Toutes ces bactéries qui s'appellent le microbiome, c'est-à-dire tout le milieu de bactéries et de virus qui recouvrent notre corps, au bout d'un moment, arrivent à un état d'équilibre. Et lorsqu'ils arrivent à cet état d'équilibre, ils se neutralisent l'un l'autre. Donc, les mauvaises odeurs, les odeurs de sueur, les odeurs de macération, tout ça, se neutralisent complètement.
Mais ça veut dire concrètement, on transpire moins, par exemple, ou pas?
Ça ne change rien. Ça ne change rien sur la transpiration, puisque la transpiration, c'est une régulation thermique.
C'est les odeurs.
Voilà. La seule condition, c'est d'avoir des vêtements propres. Parce qu'en réalité, ce qui, dans le clochard puant, nous trouve désagréable, ça n'est pas l'odeur de son corps, en réalité. C'est toute la macération de ces bactéries sur ses vêtements.
Ouais.
Donc, à condition d'avoir des vêtements propres, franchement, c'est comme la cigarette.
Ouais.
J'ai arrêté et je ne reprendrai pas.
Bon, et votre entourage, comment il a réagi quand vous leur avez dit que vous alliez vous embarquer pour un peu plus d'un mois d'abstinence de douche?
Naturellement, je n'ai rien dit.
Ouais.
Il était totalement exclu que je dévoile cet aspect secret de ma personnalité.
Alors, il y a eu des réactions ou pas?
Mathieu, il n'y a eu aucune réaction.
Ouais.
Ça a été, dans cette expérience, sur ces presque 6 semaines sans douche, sans savon, sans eau, c'est ce qui m'a le plus étonné. Personne ne l'a remarqué, jusqu'à titiller, et là le psy me répondra peut-être, un petit côté paranoïaque. Comment se fait-il qu'il n'ait rien remarqué du tout?
Oui, alors par contre, quand même, si, il faut préciser, vous êtes lavé les dents, c'est ça?
Ah, naturellement, mais ça...
Bah, naturellement, non, vous auriez pu mener l'expérience jusqu'au bout, c'est-à-dire sans vous laver les dents, parce que là, vous auriez certainement eu des réactions de votre famille, non?
Non, parce que autant l'humanité ne s'est jamais lavé quotidiennement, n'a jamais pris de douche quotidiennement jusqu'aux 30 dernières années, autant l'humanité s'est toujours brossé les dents en utilisant des racines, des plantes, pour avoir une hygiène dentaire. En fait, ce que j'ai retrouvé là, ça a été l'hygiène qu'on avait avant la Seconde Guerre mondiale. L'hygiène qui date des hommes des cavernes jusqu'aux années 40. C'est-à-dire le fait de se débarbouiller, éventuellement une fois par an, deux fois par an, de prendre un bain intégral, et le reste du temps, de vivre naturellement dans sa peau,
alors,
dans son odeur.
Il y a une petite entrée pour vous, d'ailleurs, dans le livre de David Gourion, 50 puissantes raisons de ne pas aller chez le psy, c'est page 113, David Gourion, l'hygiène dentaire, c'est la base de l'hygiène mentale. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de...
Oui, non, parmi les différents clichés que je reprenais, il y a toute cette... Toute cette mode un peu hygiéniste de il suffit pour aller très bien de faire du sport, de manger sainement, etc. Comme si c'était aussi simple, comme si la souffrance psychique pouvait se réduire à ça. Et il y a eu aussi des études autour de si on a des dents, il suffirait de se brosser les dents pour aller bien. Ouais. Donc j'avais repris.
C'est ça. Tous vos problèmes viennent des dents. C'est comme ça que vous ouvrez justement ce petit chapitre.
Mais ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce que vous dites, c'est que moi, à l'inverse, on observe dans une pathologie très fréquente qui s'appelle les troubles obsessionnels compulsifs, rigoureusement l'inverse, c'est-à-dire une obsession de la propreté avec des gens, et ça recoupe tout à fait votre observation sur le microbiome, c'est-à-dire des gens qui vont se récurer littéralement parfois plusieurs heures par jour et qui vont d'ailleurs développer des pathologies cutanées à force de se laver et qui souffrent beaucoup évidemment de ces rituels.
Mais vous avez le contraire ou pas? Est-ce que vous avez des patients qui ne se lavent pas ou qui sont réfractaires à l'hygiène?
Les patients qui ont par exemple des pathologies parfois schizophréniques, sévères, qui sont un petit peu en dehors de la vie sociale et des conventions sociales. Et en effet, c'est intéressant ce que vous dites, ce sont les vêtements
qui s'imprègne des odeurs.
Ce sont les vêtements qui
véhiculent ça. Ouais. Ouais. Donc, au bout d'un mois, vous étiez dans quel état? Parce que vous racontez, il faudra le dire dans Oui Demain, mais il y a quand même eu des rencontres amoureuses avec apparemment des partenaires qui ne se sont rendus compte de rien. Alors, pas la première semaine, visiblement, mais ensuite. Alors, au bout d'un mois, vous en êtes sorti dans quel état, vraiment? Vous aviez envie de rester comme ça, ne plus prendre de douche, ou vous aviez quand même hâte de retourner sous le pommeau?
En fait, l'intérêt de la douche, c'est l'hydrothérapie. C'est-à-dire, c'est le plaisir qu'on a tous tout le matin. C'est-à-dire, cette espèce de massage tonique qui nous fait sortir de l'état un peu comateux de la fin du sommeil jusqu'à le dynamisme, si vous voulez, de la journée qui s'annonce. Mmh. Ça m'a manqué. Ça, c'est vrai que c'est très agréable. Pour le reste, je vais vous dire, j'ai continué.
Ah, c'est vrai?
J'ai continué, donc de temps en temps, j'ai envie d'un petit massage de l'eau, de la douche, et j'en profite, mais pour le reste...
Non mais vous prenez combien de douches maintenant alors,
peut-être une par semaine.
Une par semaine, bon. On peut témoigner qu'il n'y a pas d'odeur dans ce studio, en tout cas.
Personne ne s'est évanoui, c'était un petit peu mon inquiétude rentrant dans ce petit studio chauffé.
Pas du tout, vous avez bonne mine, vous avez une très jolie peau, enfin vous avez l'air en pleine forme. Est-ce que le poil va mieux? Est-ce que le cheveu est brillant? Vous avez observé des choses comme ça ou pas?
J'ai ressenti une peau qui était plus soyeuse, si vous voulez. Ouais. Mais ça, par exemple, les médecins, les professionnels de santé le savent bien, qu'ils se lavent 10, 15, 20 ou 40 fois les mains par jour. Mmh. Ils arrivent à une peau extrêmement desséchée à cause de l'agression du savon qui est, nous l'oublions pas, un détergent. Quand le film lipidique, c'est-à-dire quand ce film d'huile est, qui nous recouvre, se rééquilibre avec sa population bactérienne, ma foi, vous retrouvez votre signature olfactive.
Bon. Bah écoutez, on va essayer cet été, on va peut-être attendre cet été quand même, mais c'est l'expérience est amusante en tout cas, et puis pour le coup elle coûte pas très cher, si ce n'est que peut-être de se procurer ce numéro de Oui Demain où vous racontez donc en intégralité votre aventure, ça s'appelle J'ai arrêté de me doucher. Guillaume Alessandro, vous restez avec nous.
Nous sommes Marcia Baila, les cracheurs de feu de l'enfance, le trajet qui n'en finit pas. Et la banquette arrière immense. Nous sommes Riverside Park, les pelouses dans les centres-villes. Nous sommes les beaux jours qui débarquent. Nous sommes les amours imbéciles. Les mêmes alarmes pour les choses qui nous alarmaient. Nous sommes la vie ce soir. Nous sommes la vie à cet instant. Et je te suis sur le trottoir. Et je te regarde à présent.
Et la voix de Vincent Delerme à l'instant.
Le club au carré sur France Inter.
Gilles Fumet, vous êtes géographe, chercheur, enseignant à la Sorbonne et à Sciences Po, et vous co-signez ce livre, Tsukiji, c'est le nom du marché aux poissons de Tokyo, avec Frédéric Georgins et Joji Nozawa. C'est un livre qui paraît dans une toute jeune maison d'édition, les éditions Akinome. Alors Gilles Fumet, ce marché aux poissons, c'est le plus grand du monde, et ce livre, justement, c'est également, on va dire, quasiment un document aussi pour la postérité, parce que ce marché est menacé de fermeture, même si pour l'instant, ça fait l'objet de beaucoup de polémiques, parce que le nouveau site qui avait été trouvé pour ce marché est un site industriel extrêmement pollué, donc il y a eu vraiment une levée de bouclier. Pour l'instant, donc, les choses sont au point mort.
En fait, c'est moins la levée de bouclier que l'arrivée sur la scène politique d'une nouvelle maire à Tokyo, qui, dans l'été 2016, a pris la décision de reculer le déménagement qui devait avoir lieu au mois de novembre, justement pour des questions de pollution. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que c'est une femme politique, voilà, qui a conscience que on ne joue pas avec la nourriture. Et je dis ça parce que je pense à ces femmes qui, dans les années, fin des années 50, ne voulaient pas nourrir leurs enfants avec du poisson qui était contaminé au mercure, et qui ont inventé ce qu'on appelle aujourd'hui les AMAP. C'est-à-dire les tékeis, ce qui sont ces relations entre producteurs et consommateurs directement, avec un contrat de loyal évidemment, qui ensuite a migré aux États-Unis et qui est revenu en France et qui a été adopté sous la forme des AMAP il y a une quinzaine d'années.
Donc pour l'instant, effectivement, ce marché ne va pas déménager, et c'est l'occasion peut-être pour ceux qui iront au Japon ou à Tokyo d'aller visiter, parce qu'il est ouvert aux touristes.
Il est ouvert aux touristes à partir de 6h du matin. Je crois que maintenant il faut s'inscrire parce que il a été victime de l'invasion du tourisme chinois. Qui a fait que là on est dans des chiffres qui sont absolument incroyables et qui font que véritablement le marché, les touristes gênent, parce que il y a encore quelques années on pouvait se promener au milieu des marchands, essayer d'imaginer Rungis ouvert.
C'est beaucoup plus grand que Rungis, justement.
Ah oui, c'est beaucoup plus
grand. C'est 25 hectares.
Oui, c'est 25 hectares et surtout c'était vraiment un marché, une curiosité qui faisait qu'on pouvait se promener très facilement.
Alors, on dit que c'est le garde-manger du monde. C'est d'abord le ventre de Tokyo, effectivement. Et puis alors là, ce que nous apprend aussi la géographie, c'est que vraiment, ce marché a transformé aussi la façon de manger dans le monde entier. Cette nourriture japonaise qui maintenant s'impose un peu partout, elle vient aussi de cet endroit.
Alors, En fait, d'abord peut-être sur la question du plus grand marché du monde, puisque vous avez entendu parfois aussi dire de Rungis que c'était le plus grand marché d'Europe. En réalité, ce qui s'est passé au 19e siècle avec les chemins de fer et la marine à vapeur, c'est que on a commencé à manipuler des grosses masses de marchandises. Et donc, dans les grandes métropoles du monde, sont nés des marchés de gros. Les Halles de Baltar, qu'a raconté Zola dans Le ventre de Paris, c'est ça, c'est cette fascination d'un marché qui grossit, qu'on a eu à New York avec le marché de Fulton, qu'on a eu à Londres avec Covent Garden, mais qui à Tokyo a pris une dimension véritablement original avec le marché dédié aux poissons et aux produits de la mer, puisqu'il s'agit de crustacés et baleines. Voilà. Et à ce titre, effectivement, il a lorsque la ville de Tokyo s'est mise à grandir avec le chemin de fer, comme toutes les grandes métropoles du monde, d'abord il a nourri Tokyo. Voilà, il a permis à ces Tokyoïdes de découvrir la viande, la chair crue. Comme les Anglais ont inventé la viande rouge, le steak anglais, c'est justement avec la chaîne du froid la possibilité d'avoir de la viande fraîche, voilà. Et puis donc un modèle d'alimentation qui était jusque là relativement élitiste, le sushi entre autres, qu'on connaît bien, qui va devenir quelque chose de...
Alors justement, il y a plusieurs poissons qui sont très emblématiques de cette nourriture crue là, que vous décrivez, à la base des sushis. Alors évidemment, le saumon, mais le thon, qui est véritablement la star de ce marché de Tokyo. Reportage, justement réalisé il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de janvier, sur ce marché où a été vendu, comme quasiment tous les ans, un thon à des prix défiant toute concurrence.
Au Japon, ce thon rouge de 212 kilos a été adjugé à 605 000 euros à ce patron d'une chaîne de restaurants. C'est le premier thon rouge de la criée de 2017. Chaque début d'année au Japon, les premières criées de thon rouge sont un rituel très médiatisé. En 2013, ce même patron avait déjà déboursé une somme astronomique pour l'acquérir, plus d'un million d'euros, un record. Dans ce marché historique, situé au cœur de la capitale japonaise, les ventes aux enchères de thon attirent plus de 40 000 personnes par jour, dont les meilleurs chefs cuisiniers de Tokyo. Les Japonais raffolent en effet du thon rouge qu'ils dégustent cru sous forme de sushi ou de sashimi. Mais ce poisson est victime de surpêche et l'espèce est considérée comme en danger par les écologistes.
Voilà, 40 000 personnes hein, au moment de la vente. Vous parliez justement de la masse de touristes présents. Ça attire vraiment les gens du monde entier. Sauf qu'il y a des problèmes de surpêche aussi avec le thon. Donc comment on fait les Japonais pour essayer
Alors,
de faire face à
les
ce
Japonais
problème
ont, les Japonais ont tout simplement travaillé à des filières d'élevage du thon. Mm-hmm. Voilà, hein, et donc
pour le saumon, ils ont fait la même chose après.
Alors oui, le saumon aussi, mais en fait les Japonais mangent plutôt pas beaucoup de saumon. Le saumon, c'est nous qui l'avons utilisé ouais. pour les sushis, pour remplacer le thon, justement. Hein. Ouais. Donc, ce thon, en fait, c'est un poisson qui est arrivé assez tard dans les sushis. Les vrais poissons, les poissons les plus consommés, c'est dorade, carpe, la carpe, parce que c'est un poisson de rivière et de lac, hein. Dorade et bonite. Voilà. Et le thon est arrivé bien après, dans les années, au milieu du 19e siècle. Voilà. Parce que il fallait des bateaux pour aller les chercher assez loin, il fallait des bateaux solides, il fallait un thon, si vous voulez, ça se pêche pas comme une sardine, hein, c'est quelque chose de très compliqué. Et puis, surtout, il fallait le conserver. Hein, parce que c'est un poisson comme un gros poisson, et qui nécessite des manipulations un peu particulières.
Et alors, pour la baleine, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a une question de Jean-Paul, il y a une espèce de baleine qui est encore autorisée à la chasse sous couvert de chasse scientifique. Des morceaux de baleine sont-ils proposés sur le marché de Tokyo?
Alors, oui, on en propose, mais finalement, assez peu. C'est assez difficile à trouver. C'est pas du tout banal. Bon, il faudrait surtout dire que la baleine, elle a été adoptée par les Japonais seulement après la Deuxième Guerre mondiale, avec des méthodes de pêche qui étaient des méthodes anglaises, donc des pêches industrielles, et pour suivre en quelque sorte l'évolution de la croissance de la ville, parce que quand même Tokyo c'est 32 millions d'habitants. Et en sachant que le marché aux poissons évidemment alimente d'autres marchés du Japon puis de l'étranger, donc la baleine c'est quelque chose qui est arrivé assez tard. Aujourd'hui effectivement les pressions internationales font que ils restreignent la chasse à la baleine, qu'elle est surveillée évidemment, qu'il y a des mouvements écologistes comme ici.
Mais on peut en trouver.
Voilà, on peut en trouver, elle est très chère, mais il y a des jours où on n'en trouve pas. Hein, ouais. Donc c'est pas non plus...
Alors le fameux fugu, ce poisson poison, qui évidemment est très cher parce qu'il a cette chair très toxique, hein, il faut vraiment avoir un savoir-faire et un geste particulier pour le découper, mais il est très prisé aussi ce fugu.
Oui, alors ça c'est pour la petite histoire, c'est comme le prix du thon, si vous voulez. On a besoin de raconter un peu ce qui se passe sur Tsukiji, donc on met aux enchères un thon comme à Beaune, on vend des pièces de vin très chères. Voilà. Donc le fugu, effectivement, cette neurotoxine, elle lui donne un caractère un peu original. Et c'est surtout un poisson qui a été interdit sous Meiji, qui lorsque la biochimie a permis de savoir pourquoi il pouvait faire mourir des gens, a été réautorisé. Voilà. Ce qui est marrant aujourd'hui, quand même, c'est de noter que bien sûr, vous ne pouvez en vendre que si vous avez un permis pour pouvoir montrer que vous savez maîtriser la découpe.
Absolument.
Et puis surtout que l'empereur n'a pas le droit d'en manger.
Et pourquoi?
Parce que justement,
risque d'empoisonnement. Risque évidemment.
D'empoisonnement. Ouais. Voilà. Non, plus sérieusement, il y a eu des mouvements qui ont demandé à ce que, comme les mouvements anti-armes à feu aux États-Unis, que ces restaurants de fugu soient fermés. Et les Japonais ont dit, mais non, ce qui nous intéresse, justement, c'est d'avoir un peu de frisson devant l'alimentation, exactement comme...
Ah, mais ça marche bien. Hein. Il est très,
marche très bien.
Très réputé pour
et
ça.
Ça attire les touristes, évidemment, c'est une expérience.
Tsukiji, voilà, c'est le marché aux poissons de Tokyo, avec la préface de Jean-Robert Pitt, des photos magnifiques, hein, évidemment, parce qu'il y a principalement des photos, c'est aux éditions Akinome, pour découvrir également cette communauté d'hommes et de femmes qui est décrite comme une espèce de grande famille, hein, puisque la plupart des les travailleurs restent quasiment toute leur vie à travailler au sein de ce marché mythique. C'est un livre donc qui vient de paraître et à découvrir, ça s'appelle Tsukiji. Voilà un titre pour partir en week-end immédiatement. Earth, Wind and Fire avec Fantasy.
La tête au carré. Le club.
Et
sur France Inter.
Et oui, sur France Inter. Nous terminons d'ailleurs ce club avec un livre totalement déjanté sur les psys, avec vous, David Gourion, puisque vous en êtes l'auteur. Vous êtes médecin psychiatre et donc 50 puissantes raisons de ne pas aller chez le psy avec les illustrations hilarantes de Museau. Quelle idée, au fond, c'était quoi pour vous libérer, pour faire du bien face à tous ces enquiquineurs de patients qui vous posent des questions sur votre profession, c'est ça au départ?
Ça, le point de départ, c'est vraiment un jour, j'ai reçu une adolescente qui allait mal, qui était réticente pour venir, mais finalement sa mère avait insisté. Elle est accompagnée par son père, elle va très mal, je la vois d'abord seule, et puis je reçois le papa ensuite qui m'explique que les psychiatres, bon, ça sert strictement à rien, que sa gamine, si elle se mettait un bon coup de pied au cul, elle irait tout à fait bien, et que tout ça, c'est un peu des histoires de bonnes femmes. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à convaincre ce père du fait que sa fille, non, c'était un peu plus compliqué que ça, qu'il fallait mettre en place des choses, et malheureusement, la suite a été terrible, puisque cette jeune fille, des mois après, je l'ai appris, s'est suicidée. Je me suis dit qu'il fallait essayer de créer un outil qui soit un outil qui explique à des personnes qui ont beaucoup d'a priori, de clichés sur les psys, ils sont très nombreux.
Ah oui, il y en a beaucoup là, effectivement.
Il y en a beaucoup, et je me suis dit que faire un livre sérieux sur ce sujet-là, donner un livre sérieux à quelqu'un qui va mal, ça ne marcherait pas. Donc il fallait faire un outil drôle, et pour ça il fallait le faire avec un dessinateur humoristique, et ça a été vraiment une super aventure que de le faire avec Muso, et de déconstruire tous les clichés sur les psys un par un, en essayant vraiment de forcer le trait. Voilà.
Et je vous le confirme, c'est absolument hilarant, parce qu'on rit vraiment, ce sont des entrées très courtes, hein, mais qui vraiment donnent une image sur des questions qui tournent autour des vivants. Mais ça ne m'étonne pas, ça se sent.
Le psychiatre un peu fou, je riais tout seul.
Alors c'est ça, et donc en plus on apprend qu'il y a des psychiatres qui ont de l'humour. Donc ça, c'est une bonne chose quand même. Hein.
Alors, il y a des psychiatres qui ont de l'humour. Il y avait aussi, je pense, derrière l'idée que les psychiatres se prennent quand même parfois beaucoup au sérieux, avec des discours parfois très, très incompréhensibles, très ampoulés, et que ça ferait peut-être du bien aussi de rire un peu nous-mêmes. Il y avait aussi l'idée que c'est un peu compliqué pour les gens, les psys ne s'y retrouvent pas entre psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, etc. Donc, de redonner à la fin, c'est la partie plus sérieuse du livre, ce que c'est quel psy aller voir, qu'est-ce que c'est qu'un bon psy.
Il y a quand même des conseils à la fin pour ceux qui souhaitent, et vous les invitez quand même à aller consulter vos confrères et vous-même. Pour illustrer justement cette discussion, voici un extrait du film Paris de Cédric Clapiche, avec, vous allez tout de suite le reconnaître.
Ne le prenez pas mal, mais j'y crois pas du tout. J'ai toujours trouvé tout ce truc-là très très ridicule.
C'est quoi tout ce truc-là?
Ben vous, ici, le divan, la psychanalyse, quoi. J'ai toujours trouvé ça complètement con. Je trouve ça débile.
Oui? Pourquoi vous êtes venu, alors?
Oui, alors évidemment, je sais pas bien pourquoi je suis venu ici. Mais le problème, c'est que j'y crois pas du tout, quoi. Je trouve qu'il faut être sacrément naïf pour faire ça, non?
Pour faire quoi?
Ben pour y aller, raconter sa vie, sa petite enfance... Avec tout le côté complexe d'Oedipe, je suis très attaché à ma maman. Est-ce que c'est grave? Combien je dois, docteur? Il y a un petit côté pathétique, non?
Voilà, Fabrice Luchini, évidemment. Et la situation va s'inverser, hein, on s'en doute, dans ses paroles. Alors, il y a évidemment un certain nombre d'idées sur ceux qui viennent vous voir. Ça, c'est vraiment des phrases que vous avez entendues autrement, de la part des patients?
Pas forcément aussi marquées, mais quand même. Oui, vraiment, il y a ces patients qui viennent vous voir, qui vous décrivent un peu leur histoire, et puis qui à la fin vous disent « bon, quand même, je suis allé voir une voyante ».
C'est ça.
Et on a l'impression finalement que ça les a beaucoup plus marqués
que d'aller voir un psy. Oui. Hein, parce qu'au moins la voyante peut voir dans l'avenir, ce qui n'est pas toujours le cas évidemment d'un professionnel. Alors vous dites « mieux vaut investir son argent dans l'immobilier plutôt que d'aller voir un psy ». Est-ce que vous avez évalué la rentabilité de la somme investie dans votre psychothérapie? Eh bien, elle est absolument nulle. Alors plutôt que de voir un psy, investissez dans l'immobilier. Faites le calcul, avec la même somme, dans 15 ans, vous serez l'heureux propriétaire d'un box de parking que vous pourrez louer gratuitement à votre petit-fils toxicomane. Mais c'est exactement ça. Hein.
Mais c'est ça.
Sur ce tabou de l'argent aussi.
C'est tabou de l'argent. C'est génial le petit extrait que vous avez passé, parce qu'il montre bien toute l'ambivalence de la démarche de « je suis là mais je ne sais pas pourquoi », on entend ça tous les jours.
Oui.
Souvent les hommes d'ailleurs, c'est ma femme, on a l'impression qu'il est arrivé là, que la femme est dehors et l'a scotché là, ou c'est mes parents, et en même temps la personne d'une certaine façon elle est sans doute soulagée d'être là, ravie d'être là, mais elle peut pas dire « j'ai fait la démarche moi-même », c'est un peu honteux quand même, aller voir un psy, pour beaucoup de personnes... Quand ils viennent et qu'ils nous disent c'est la première fois, on a l'impression qu'ils nous disent c'est la première fois. On se demande quelle première fois. Il y a ce côté-là très particulier.
Vous écrivez, les études montrent que la durée moyenne du mariage est de 7 ans, tandis que la durée moyenne d'une thérapie est de 40 ans. On ne peut pas divorcer de son psy. Essayez donc, il ne vous laissera jamais partir. Si vous lui affirmez que vous voulez arrêter, il vous répondra, ça n'est pas le moment, vos résistances s'activent, continuez, vous avancez. Et à chaque nouvelle tentative, vous en reprenez pour 10 ans. Ben, c'est exactement ça. Hein.
Et c'est pour ça que je faut aussi arrêter le psychanalyse. Un psy très âgé, comme
c'est ça. Il risque de mourir avant vous.
Comme ça, vous serez tranquille.
Et vous libérez du divan.
Oui. Mais il y a quand même en arrière-plan, on en rit, mais c'est quand même très stigmatisé, les maladies psychiques. Les gens qui sont en arrêt de travail pour dépression sont très nombreux. C'est la première cause d'arrêt de travail en France. Mm-hmm. Vous ne les avez jamais entendus dire. On commence à dire burn-out. Ça commence à rentrer. Mais enfin, globalement, les gens vont inventer une sciatique, etc. Il y a quand même une vision de la souffrance psychique, finalement la vision négative des psychiatres, ça renvoie à la vision négative.
Oui.
Les gens continuent de penser que maladie psychique égale faiblesse morale. Et il y a aussi un peu une dimension un peu militante dans ce livre de dire la souffrance psychique n'est pas une sous-souffrance, une souffrance comme les autres, on peut se faire aider, soigner.
Vous dites les psys ne parlent pas, hein, ça aussi, on l'a remarqué chez certains. Des études d'imagerie cérébrale ont montré qu'à force d'écouter les fous, les psys développent des plaques de gélatinisation dans leur cerveau. Par contre, leurs nerfs optiques sont protégés de cette dégénérescence qui leur permet d'écarquiller les yeux quand on leur parle. Ils peuvent donc faire illusion, mais en fait, ils ne comprennent tout simplement pas ce que vous dites. Mais vous emmerdez quand même des fois, non ?
Il y a vraiment...
Ça arrive.
Écoutez, j'ai cette chance. Le jour où ce sera le cas, je crois qu'il faudra que j'arrête.
C'est vrai.
Mais j'ai cette chance-là.
Toutes les histoires vous intéressent, franchement ? Ou parfois, vous avez des patients où secrètement, vous dites « Non mais, qu'est-ce que je fais là ?» Non ?
Je pense que les psychiatres, on est... S'il n'y a pas l'intérêt, la curiosité, ce côté... J'ai un collègue qui disait « On est des concierges de luxe ». Ça me faisait beaucoup rire quand il disait ça, mais...
Pourquoi vous répétez tout ?
Non, on ne répète rien, justement.
Vous écoutez.
Non, mais des patients vous rapportent parfois que le psy ne... Alors, entre ce que les gens ont vécu et ce qu'ils vous rapportent, il y a parfois une différence. Mais j'ai une patiente qui m'a dit que son psy s'était réellement endormi.
Ouais.
Et c'était une dame qui était très gentille, qui m'a dit, j'étais très embêtée, je savais pas ce qu'il fallait faire parce qu'il avait l'air vraiment fatigué, je n'ai pas osé le réveiller.
Ouais. Et elle a continué après sa thérapie ou pas?
Non, c'est pour ça qu'elle a décidé
d'aller vous voir vous, c'est ça. C'est quand même très très vexant de voir son psy s'ennuyer.
Mais écoutez, je pense que c'est comme dans toutes les professions, il y a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, d'autres peut-être moins.
Alors tous les psys couchent avec leurs patientes.
Évidemment.
Hein. Évidemment, ça aussi. Il y a des statistiques qui sont proposées.
Ceci dit, j'en plaisante, mais des statistiques aux États-Unis avaient montré que 7 ou 8% des psychiatres disaient avoir eu une relation sexuelle
avec beaucoup, quand
une
même.
De leurs patientes,
voire plus,
ou l'inverse. Mm-hmm. Et donc, ils avaient même émis des recommandations en disant on n'a pas le droit, avant au moins 3 ans, de non-suivi. Donc, j'ai imaginé cocher dans leur agenda, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu.
Avant de pouvoir passer à l'acte. Est-ce qu'il y a quand même, au-delà de l'acte sexuel, est-ce qu'il y a un rapport de séduction finalement dans la relation entre le patient et le thérapeute, dans le récit d'ailleurs, dans le fait de raconter une histoire à son patient? Est-ce que vous sentez que certains font des efforts pour justement essayer de vous laisser en éveil, quoi?
Alors ça dépend ce que vous appelez la séduction. Je pense que dans toutes les relations humaines, d'une certaine façon, on a besoin de se sentir accepté et d'attirer l'attention de l'autre. Après, il y a plein de situations. Vous pouvez avoir la situation de patientes grandes hystériques qui vont être dans des démonstrations, qui vont quasiment vouloir se déshabiller.
Ah, c'est vrai, ça vous avez arrivé, ça
ça arrive, mais qui sont dans des problèmes. C'est des grandes souffrances, parce que leur seule modalité d'échange peut être autour de l'érotisation de la relation. Il y a des grands narcissiques qui ne peuvent vivre l'échange que si vous êtes dans une admiration absolument éperdue, ce qui révèle des failles profondes, si on a besoin de ça. Donc, Il y a plein de situations différentes et c'est intéressant justement, il y a un des outils qui est ce que je vais ressentir pour cette personne est en soi un élément qui va me permettre de mieux comprendre cette personne. C'est-à-dire je vais utiliser mon ressenti comme un outil, comme un instrument. Pourquoi est-ce que je ressens ça face à cette personne? Et je vais pouvoir aussi en faire quelque chose pour mieux la comprendre.
En tout cas, vous dites, vos problèmes n'intéressent pas les psys. La preuve, ils ne pleurent pas quand vous leur racontez vos misères. Et Dieu sait que vous en voyez passer tous les jours
sur
le divan ou dans votre cabinet.
On voit des gens qui vivent comme des situations de vie atroces. On ne se rend pas compte, pas rentrer dans les détails, mais il y a quand même, même dans les grandes villes, une extrême solitude. Il y a des gens, je pense, qui ne parlent qu'à leur psy. Parfois au cours du mois.
Oui. Alors on rit beaucoup et puis effectivement à la fin quand même il y a des conseils pour ceux qui finalement auront décidé d'aller consulter et pour choisir un bon psy, surtout pour pas se tromper. En tout cas c'est une expérience évidemment et on peut s'amuser en lisant ce livre et regarder les dessins, les illustrations de Museau. Ça s'appelle 50 puissantes raisons de ne pas aller chez le psy. David Gourion, dont vous publiez cet ouvrage aux éditions Jean-Claude Lattès. 50 raisons de ne pas prendre sa douche, ce sera peut-être votre prochain article, Guillaume d'Alexandron. En tout cas
sans aucun doute,
on a pris bonne note.
Si la bonne odeur de ce studio, de cette émission...
Ça s'est très très bien passé. Merci beaucoup à vous. Et puis Gilles Fumet, on peut partir sur le marché aux poissons de Tokyo grâce à vous. Passez un bon week-end. Merci beaucoup.
Merci.